Alors, ce matin, nous allons faire une pause dans le livre que nous étudions d'habitude ici dans l'église en ce moment. C'est le dernier livre de la Bible, de l'Apocalypse. Mais ce matin, nous allons faire une pause pour célébrer justement la famille et les enfants. Et le texte qui va nous inspirer ce matin se trouve en Exode chapitre 10. Mais ça ne change pas trop le sujet puisque l'Exode est vraiment est repris dans l'Apocalypse pour montrer ce que Dieu fait, de la manière que Dieu sauve son peuple et qu'il juge le mal, et il sauve son peuple à travers des jugements. Et bien le livre de l'Apocalypse reprend vraiment l'histoire d'Exode et les plaies, la sortie d'Égypte. Et donc nous allons nous plonger au cœur de cette histoire de Moïse, de la sortie d'Égypte, des plaies. Et en chapitre 10, nous arrivons, ce sera la dernière confrontation en présentiel entre Pharaon et Moïse, comme nous venons de chanter, où Moïse appelle « Laisse aller mon peuple ». Et donc voici la dernière confrontation entre Pharaon et Moïse. Et je vous lis donc Exode chapitre 10, versets 1 à 11. « L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils, comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. » Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller mon peuple, voici je ferai venir demain des sauterelles dans toute l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. Elles dévoreront le reste de ce qui a échappé, ce qui vous a laissé la grêle. Elles dévoreront tous les arbres qui croissent dans les champs. Elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Tes pères et les pères de tes pères n'auront rien vu de pareil depuis qu'ils existent sur la terre jusqu'à ce jour. » Moïse se retira et sortit de chez Pharaon. Les serviteurs de Pharaon lui dirent, « Jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt ?» On fit revenir vers Pharaon Moïse et Aaron. « Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Qui sont ceux qui iront ?» Moïse répondit, « Nous irons avec nos enfants et nos vieillards, avec nos fils et nos filles, avec nos brebis et nos bœufs, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. » Pharaon leur dit, « Que l'Éternel soit avec vous, oui, tout comme je vais vous laisser aller, vous et vos enfants. Non, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, 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 allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé. » Et on les chassa de la présence de Pharaon. J'aimerais mettre l'accent ce matin sur les versets 9 à 11, ce dernier échange entre Pharaon et Moïse. La proposition de Pharaon, si vous avez bien compris, c'était de laisser partir uniquement les hommes. Déjà, les plaies commencent à travailler, à détruire son pays. Donc là, il propose qu'ils peuvent partir uniquement les hommes. Mais Moïse insiste, cette proposition est inacceptable pour lui. Non, nous irons avec nos enfants. Peut-être la traduction de la Bible en français courant capte mieux l'échange, je pense, qui ressort. Mais donc Moïse dit, nous irons avec nos enfants. Et le pharaon répliqua avec ironie, que le Seigneur soit avec vous. Oui, oui, c'est ça, c'est avec ironie. Je vais sûrement vous autoriser à partir avec vos familles, mon œil. Il est clair que vous avez de mauvaises intentions. Ce que vous proposez est inadmissible. Seuls les hommes iront rendre un culte au Seigneur. C'est tout ce que vous pouvez demander. Donc seuls les hommes, mais pas les familles, pas les enfants, pas tout le reste. Et on les expulsa de chez Pharaon. Nous irons avec nos enfants. C'est l'attitude que j'aimerais qu'on adopte ce matin, la même conviction, la même attitude qu'avait Moïse face à Pharaon. J'aimerais que nous, on ait cette même attitude face au Pharaon de ce monde. Nous irons avec nos enfants, nous irons avec nos fils et nos filles, nous irons avec nos jeunes. Nous irons vers la liberté, nous irons vers le salut, nous irons vers le pays promis, nous irons vers Dieu, nous irons vers la vérité, nous irons vers l'évangile, nous irons vers le culte, vers la vraie adoration avec nos enfants. Nous n'acceptons pas de ne pas partir avec eux. Comme Étienne, celui qui nous a conduit dans la musique ce matin, nous a rappelé le salut en Jésus. Toute la Bible montre que le salut en Jésus, la foi chrétienne, est comme une nouvelle exode. Nous sommes libérés des puissances du mal, de l'esclavage du péché, et avec le peuple, avec cette foi dans notre Sauveur, notre Délivreur, qui est Jésus, eh bien, nous nous mettons en route vers le ciel. Et l'ensemble de la Bible nous encourage à vivre ça en famille. Nous le voyons bien ici en Exode, et puis c'est repris tant de fois dans les psaumes, et même dans le Nouveau Testament, de vivre le salut en famille, avec nos enfants. Et ça ressort d'ailleurs assez clairement dans la première prédication chrétienne, c'est dans le livre des Actes, après la résurrection, après le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre prêche le premier message chrétien, le premier message évangélique, ouvertement évangélique, puisque maintenant l'évangile est scellé, est acquis. Avec tout ce qu'a fait Jésus, et donc il prêche à la foule en Actes chapitre 2, il dit « Car la promesse est pour vous, cette promesse du salut, cette promesse de l'évangile, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Et là, il s'appuie aussi sur les histoires comme de l'Ancien Testament, comme l'Exode. Sauvez-vous, sortez de cette génération perverse. Mais la promesse est pour vous et pour vos enfants, tout comme ça l'a été à l'époque de Moïse. Alors, nous voulons adopter cette attitude ensemble. Nous irons avec nos enfants et c'est un projet d'église. C'est les parents, tout d'abord, mais Moïse parle aussi au nom de tout le peuple. On veut laisser personne. Donc ensemble, en projet d'église, en famille, nous irons avec nos enfants. Alors, c'est un peu différent ce matin, puisque je veux être aussi un peu pratique et concret. L'idée principale de l'Exode, c'est que Dieu est le seul vrai Dieu, plus puissant que tout le reste. Il offre un salut à son peuple. Mais nous allons faire quelques applications pour la famille ce matin. Alors, j'aimerais vous donner trois raisons que Moïse n'accepte pas cette proposition de laisser les enfants ne partir qu'avec les hommes. Trois raisons pour dire « nous irons avec nos enfants ». Et puis sept conseils pour le faire, parce que c'est ça tout le défi, c'est de partir avec nos enfants et de vivre le salut avec eux. Donc d'abord trois raisons, ensuite sept raisons, ça fait 10 points en tout. On va essayer d'avancer assez rapidement. La première raison que Moïse n'accepte pas la proposition de Pharaon, c'est parce que Dieu veut être connu dans toutes les générations. C'est le verset 2 qui le dit. Et c'est la raison même de l'Exode. Dieu dit à Moïse, je vais faire tout ça, je vais faire ces plaies, ces signes, je vais vous faire sortir d'Égypte pour que, pour me montrer à Pharaon, mais aussi verset 2, c'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc, je fais tout ça pour que tu la racontes à ton fils et à ton petit-fils. Vous voyez, Dieu veut être connu dans toute la terre. Il veut être connu par les Égyptiens, il veut être connu par les Hébreux, il veut être connu par les Français, il veut être connu dans toute la terre, mais il veut aussi être connu dans toutes les générations, nos enfants et nos petits-enfants. Ça, c'est le projet de Dieu dans toute la Bible, être connu sur toute la terre et être connu dans toutes les générations. Et donc, il va faire l'Exode de la manière, de cette manière-là, pour qu'on puisse raconter ça aux générations suivantes. Les événements de l'Exode ont été vécus en famille, pour le bien des familles, pour le bien des générations à venir. Et ça nous rappelle que oui, adultes et enfants peuvent connaître, peuvent glorifier Dieu. Il y a certaines religions, effectivement, c'est que réservé aux hommes. Et les femmes, les enfants ne comptent pas vraiment. D'autres pensées ou philosophies, c'est peut-être que pour les adultes, et puis on s'intéresse. Mais Dieu s'intéresse à toutes les générations. Les enfants font partie de son peuple, font partie de son église. Les enfants ne sont pas l'église de demain, c'est déjà l'église d'aujourd'hui. Après, c'est sûr, on va faire, j'aimerais faire une petite remarque un peu théologique. Il n'y a pas une correspondance directe entre une famille juive à l'époque de l'Exode et une famille chrétienne à l'époque de maintenant, l'époque de l'Évangile, l'époque de la Nouvelle Alliance. À l'époque, un enfant qui naît dans une famille des Hébreux est automatiquement hébreu. Et quand ils sont sortis par la mer Rouge, qui est comme une image du baptême, toute la famille était passée. Mais nous voulons rappeler que oui, un enfant qui naît dans une famille chrétienne n'est pas automatiquement chrétien. L'Exode était une image du salut, ce n'était pas le salut en soi. Ceux qui sont passés par l'Exode, certaines plus tard, se sont montrés incrédules. C'est pour ça que ce matin, vous n'avez pas vu des baptêmes de bébés, parce que nous voulons rappeler que la démarche de salut là, est une démarche individuelle. La vraie foi, le salut sera toujours une démarche personnelle, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et cela, on veut rappeler. Mais dans toute la Bible, néanmoins, il y a un grand accent sur la famille entière. Dieu veut sauver parents et enfants. On a ça à plusieurs reprises dans le livre des Actes. Le salut entre dans une maisonnée entière. Acte 16, verset 31, c'est verset si clair. Que dois-je faire pour être sauvé ? Demande une personne troublée. Et la réponse de l'apôtre, c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. L'appel à toute la famille à placer sa foi en Jésus-Christ. Parce que Dieu veut être connu dans toutes les générations. Donc, Moïse ne veut pas laisser des enfants parce qu'il sait que ses enfants font partie du peuple de Dieu et peuvent adorer et connaître Dieu aussi. Donc, on ne va pas les laisser en arrière. La deuxième raison que Moïse n'accepte pas la proposition de Pharaon, c'est parce que Pharaon n'est pas Dieu. Et ça va être la grande confrontation du livre d'Exode. Pharaon refuse de s'humilier devant Dieu, il refuse de reconnaître qui est Dieu. Et c'est le problème de Pharaon, il se prend pour Dieu. Et donc, dans l'Exode, on vit une confrontation entre Moïse et Pharaon, mais la vraie confrontation, c'est entre Yahweh, l'Éternel, ce chant nous a rappelé le nom de Dieu en hébreu. Et la vraie confrontation, c'est entre Pharaon et ses dieux, et puis l'Éternel, le Dieu des Hébreux, Yahweh, qui est le seul vrai Dieu. Et le problème, c'est que Pharaon a tendance à se prendre pour Dieu. D'ailleurs, quand Moïse est venu tout au début pour se présenter en disant, Dieu dit, l'Éternel te dit de laisser aller mon peuple, Pharaon dit, l'Éternel, c'est qui celui-là? Je ne connais pas. Pourquoi je dois... Donc, Pharaon se prend pour Dieu et Pharaon doit apprendre qu'il n'est pas Dieu. Et donc, du coup, tous les plaies et la sortie d'Égypte est là pour lui apprendre qu'il n'est pas Dieu alors qu'il se prend pour Dieu. Et il s'endurcit de plus en plus dans cette idée. Et Moïse ne va pas lui laisser ses enfants, les enfants, parce qu'il sait que les enfants appartiennent à Dieu, au fond. Et que Pharaon qui se prend pour Dieu, c'est toujours c'est une mauvaise chose de se confier nos enfants à quelqu'un qui se prend pour Dieu et qui ne l'est pas. Et c'est intéressant l'histoire, même après que les plaies se multiplient et que le pays est quasiment en ruine, comme les serviteurs de Pharaon l'ont signalé, Pharaon essaie de négocier avec l'Éternel. C'est sa manière de ne pas complètement plier le genou. Donc à un moment, il dit non, vous pouvez pas partir, mais après il va dire, ok, vous pouvez partir, mais pas loin. Juste à quelques kilomètres, vous quittez pas le pays, vous pouvez partir, mais pas loin. Et Moïse dit non. Après, il dit, ok, vous pouvez partir, mais sans les enfants. Moïse dit non. Après, dans le même chapitre, plus tard, il dit, ok, vous pouvez partir avec les enfants, mais pas les bœufs et le bétail pour faire des sacrifices. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire un culte comme vous voulez, mais comme moi, je dicte. Vous voyez, chaque fois, Pharaon dit des fois ok, mais sous mes termes. Donc, il essaie de négocier avec l'Éternel parce que lui, il a toujours cette prise de pouvoir avec Dieu. Mais Moïse ne joue pas ce jeu. Il ne laisse pas Pharaon penser qu'il peut garder un peu le contrôle. Et il insiste, et là, l'obéissance totale n'appartient qu'à Dieu seul. Donc c'est pour ça que Moïse n'accepte pas une demi-solution, ok, on peut partir mais sans les enfants, parce qu'il discerne en Pharaon une attitude qui se prend pour Dieu, et ça il refuse. Et des fois c'est l'enjeu avec nos enfants, à qui ils appartiennent-ils vraiment? Qui est Dieu? Qui peut dicter vraiment leur devenir? Et nous croyons que cela appartient à Dieu. Et après, Dieu a délégué différents cadres d'autorité. Mais quelqu'un qui se prend pour Dieu, qui dit non, je récupère vos enfants parce qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus de moi, eh bien, c'est mauvais signe. Et la même leçon que Pharaon a appris, la même leçon doit être apprise parfois par des pères autoritaires qui se prennent pour Dieu et qui deviennent des mauvais pères ainsi. Mais non, La même leçon doit être apprise parfois par les mères inquiètes qui s'angoissent, mais non, Dieu est Dieu. La même leçon doit être apprise par l'État, qui des fois se prend pour Dieu. Non, nous disons que Pharaon n'est pas Dieu, nos enfants ne lui appartiennent pas. Et enfin, troisième raison que Moïse n'accepte pas de laisser les enfants, c'est il sait que Pharaon n'aime pas nos enfants. Dieu aime vos enfants, vous parents, vous aimez vos enfants, mais Pharaon ne les aime pas. Satan ne les aime pas. Les PDG de Facebook, de Instagram, ils ne les aiment pas, comme vous pouvez les aimer. Mais Pharaon n'est pas en train de dire, laissez les enfants, ces chers bambins, je veux leur éviter la souffrance. Vous savez, dans le désert, il y a des scorpions. Ils vont avoir peur. Donc voilà, nous avons des super crèches ombragées, remboursées par la Sécu. Laissez-nous vos enfants, tout ira bien. C'est pas ce qui anime Pharaon. Vous le savez. Non, c'est pour en faire des otages, peut-être que le peuple revienne. C'est pour en faire des esclaves. Et Moïse n'est pas dupe. Il ne va pas laisser les enfants à un pharaon, à des pharaons qui, il n'y a pas si longtemps, jetaient les garçons hébreux dans le Nil pour maintenir le pouvoir, pour s'enrichir. Donc Pharaon, déjà ce qu'il a fait avec les garçons hébreux, on peut soupçonner qu'il va pas être, pas pouvoir bien prendre en charge les enfants. Et nous réfléchissons, nous devons réfléchir ainsi aussi. Une société qui milite pour l'avortement perd sa crédibilité en matière d'enfance, de protection d'enfants. Des gens qui ne savent pas faire la différence entre un garçon et une fille, ils n'aiment pas des garçons, ils n'aiment pas des filles. Pharaon n'aime pas nos enfants. Donc Moïse ne va pas lui confier les enfants. Alors nous irons avec nos enfants. C'est la conviction, c'est l'attitude que j'aime bien en Moïse. Non, nous irons avec nos enfants, nous irons avec tout le monde, nous irons avec tout le peuple entier. Nous irons parce que Dieu nous appelle, parce que tout le peuple peut adorer et doit adorer l'Éternel. Nous irons avec nos enfants. C'est un beau projet. Maintenant, le défi, c'est comment? Comment garder nos enfants? Comment les élever dans la foi? Comment vivre tout ce voyage, tout ce pèlerinage ensemble? Avec ces défis de famille, comment vivre l'évangile avec eux, comment transmettre l'évangile avec eux. Et c'est pour ça que j'aimerais maintenant vous donner sept conseils. Donc voici en résumé les trois raisons. Dieu veut être connu dans toutes les générations, parce que Pharaon n'est pas Dieu et parce que Pharaon n'aime pas nos enfants. Et maintenant, j'aimerais vous donner sept conseils j'essaie de retirer de l'histoire de l'Exode sur cette vie de famille, comment garder les enfants avec nous. Je suis pleinement dedans moi-même. On a des enfants bas âge dans notre famille, on a des enfants et ados. Alors c'est ensemble que nous essayons de vivre tout ce que Dieu nous appelle à faire en ce qui concerne la famille. Donc, mon premier conseil ce matin, c'est adorer et servir Dieu en famille. Justement, quand il dit nous irons avec nos enfants, c'est nous irons pour faire un culte. Verset 8 et 9. Verset 9, nous irons avec nos enfants et toute la famille, avec nos fils et nos filles, car c'est pour nous une fête en l'honneur de l'Éternel. Ils veulent faire une fête, ils veulent adorer, ils veulent faire un culte en famille, avec des enfants. Les enfants ont leur place dans le culte et dans l'adoration. Et donc, moi, je vous conseille adorer et servir Dieu en famille. Le culte, ce n'est pas que pour les adultes. Et quand je parle du culte, je parle du culte de dimanche, et puis je parle du culte du culte de famille, et puis le culte de tous les jours. Notre vie chrétienne est un culte et nous voulons vivre ensemble en famille. Nous pouvons vivre ce culte dimanche et en dehors du dimanche. Et donc, le conseil, c'est une vie d'église en famille. C'est vrai que c'était un défi pour nous d'inclure tous les âges, du nourrisson, comme vous avez vu, jusqu'à des grands-enfants, des ados. C'est un défi pour ma famille, c'est un défi pour notre église de pouvoir vivre ce culte tous ensemble. Vous savez que voilà, on a tous les âges et vous avez vu ce matin même le défi d'avoir les tout-petits plus les grands. et de vivre ensemble un culte. Donc, c'est notre rêve, c'est notre fardeau, c'est notre désir, c'est qu'on puisse accueillir les familles entières et que le dimanche matin, déjà, se passe, que chacun ait sa place dans le culte, chacun puisse offrir un culte à Dieu. Donc, il y a des moments de chant ensemble, et puis on essaie aussi de les accueillir dans les classes pour que, voilà, à la sortie du culte de dimanche, chacun puisse dire, voilà, nous avons en famille adoré, nous avons avancé avec Dieu. Et c'est ce que nous voulons faire. Éviter l'attitude qui dit, on ira à l'église, on lira la Bible, on fera un culte si on n'a rien d'important à faire. Ça envoie le message que voilà, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait en famille. Non, on adapte parfois le programme pour adorer et servir Dieu ensemble. Ça, c'est mon premier conseil. Deuxième conseil, c'est accueillir leurs questions et puis donner des réponses bibliques. Ou bien renseignez-vous pour pouvoir donner des réponses bibliques. Accueillir leurs questions. Dieu a conçu l'Exode avec l'agneau pascal, avec le sang sur la porte, avec le partage des eaux, avec les pains sans levain. Tout ça, avec ce symbolisme, il a conçu pour susciter des questions chez les enfants. Si vous lisez la suite de l'Exode, souvent Dieu dit, et quand votre enfant vous demandera pourquoi tu fais ça, à quoi ça signifie, tu pourras répondre que c'est un rappel du salut, c'est un rappel de la délivrance, c'est un rappel de l'évangile. Donc Dieu a conçu l'Exode pour susciter les questions chez les enfants. Et c'est vrai, Dieu a donné aux enfants une capacité, une curiosité, une capacité de questionnement, et ils aiment poser des questions. Et en tant que parents, à nous de profiter de ces moments pour leur donner des réponses, pour répondre à leurs questions. Alors souvent, c'est sûr, ils ont le manie de poser des questions à des moments peut-être qui sont les moins convenables. On éteint la lumière, dodo, pourquoi Pharaon, combien de grenouilles y avait-il dans le, et tout ça. Et des fois, on a juste envie d'aller trouver un moment calme. Mais les enfants ont plein de questions. Et vous savez, on connaît des parents qui pensent pas trop à Dieu, qui sont pas très croyants, et puis un enfant arrive et commence à poser des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Mais qui m'a créé et tout ça? Et ces parents-là sont interpellés, n'ont pas toujours les bonnes réponses, et donc sont peut-être poussés à se tourner vers la foi ou la Bible. Et ça, c'est louable, parce que oui, les enfants ont des questions et nous voulons pouvoir leur répondre, accueillir leurs questions. Un troisième conseil, accepter par la foi que par moment ce sera moins facile et plus fatigant avec les enfants. Accepter que par moment ce sera moins facile avec les enfants. Cela aurait été plus simple à fuir l'Égypte sans les enfants, on est d'accord. Moïse aurait pu dire, ah, il veut garder les enfants, ça m'arrange. Si l'armée de Pharaon se met à les poursuivre, à vue humaine, ils auraient peut-être plus de facilité qu'entre hommes à se défendre, ou bien peut-être à fuir, à se cacher dans les rochers. Ces hommes n'auraient pas pu faire grand-chose contre les chars de Pharaon, mais un peu plus de chance. Mais si au moment de partir, s'il faut passer la mer Rouge avec la poussette, avec le sac à langer, s'il faut s'arrêter pour changer une couche, si la petite Rachel pleure parce qu'elle a laissé sa poupée chez la petite Cléopâtre, et que son grand frère l'embête aussi, cette famille-là, voyant tout le monde partir, peut dire, aïe, est-ce qu'il y a une place pour nous dans la délivrance, quoi, ou accepter par moment que ce serait moins facile avec les enfants. Bien sûr, il y a des saisons, Dieu comprend. D'ailleurs, Moïse lui-même, à ce moment, il n'a pas sa famille qui est restée au pays avec les grands-parents. Donc, des fois, les grands-parents, des fois, un autre cadre, et parce que Moïse, c'est pas évident de faire tout ça. Donc, Dieu comprend les situations. Mais Moïse veut pas laisser en arrière les enfants. Et donc, ce serait par la foi qu'ils doivent partir, parce que les familles entières fuient les armées de Pharaon. Ils vont devoir compter sur Dieu et ils vont devoir accepter dans un esprit de sacrifice que des fois, il y a certaines qui avancent plus lentement que d'autres, mais Dieu va nous protéger. Trop souvent, notre société nous apprend à voir les enfants comme un frein à la liberté, mais on définit la liberté comme un confort personnel, alors que tout l'Exode définit la liberté comme une délivrance du mal, une capacité d'obéir, de plaire à Dieu. C'est ça la vraie liberté, et en cela, les enfants ne sont pas un frein à la liberté que Dieu nous offre. Donc, accepter par moment qu'avec les enfants, ce serait moins facile. Quatrième conseil, ne confiez pas 100% de leur formation, de caractère, de conviction, de connaissance, ne confiez pas 100% de leur formation à l'Égypte, à Pharaon. Pharaon saura donner une excellente formation sur la construction des pyramides. Mais Pharaon ne saura pas dire qu'une pyramide n'est pas la vraie manière d'atteindre l'immortalité. Donc les Égyptiens étaient très forts dans la construction de pyramides. Mais derrière, et c'était pour atteindre l'immortalité que Dieu se l'offre par l'Évangile. Pharaon saura expliquer l'irrigation agricole du Nil, par le Nil. Mais s'il se met à dire que la grenouille là représente une divinité ou un dieu, ou que le Nil c'est une divinité, ou s'il commence à dire que l'homme descend de la grenouille là, non. Ne confiez pas 100% de leur formation à l'Égypte. Bien sûr, une chose qui peut nous encourager, c'est Moïse lui-même. Il a fait tout son parcours, toute son éducation dans le système égyptien. Mais rappelez-vous, Moïse, derrière, il y avait des parents animés d'une grande foi, des circonstances assez fortes. Et ses parents, à tout moment, par la foi, ils confiaient leur enfant à Dieu. Et donc, là, un peu la présentation ce matin s'inspire de ces parents qui déposent leur enfant, cet enfant Moïse, dans l'arche, dans le Nil, par la foi, et vont continuer à prier pour lui pendant tout son parcours. Et puis, sachez aussi que Dieu lui-même a complété sa formation par 40 ans dans le désert. Donc, il y avait peut-être des choses qu'il n'a pas eues en Égypte. Et donc, aussi 40 ans dans le désert pour qu'il apprenne ce qui est Dieu vraiment. Donc, ne confiez pas 100% de leur formation à l'Égypte. Cinquième conseil, faites la fête. Faites la fête. Célébrez. Dieu les a sortis, son peuple d'Égypte, pour chanter, pour danser, pour célébrer sa bonté. C'est la première chose qu'ils font en Exode chapitre 15, dès que les eaux se referment sur les armées, c'est la fête, c'est les chants, les danses, c'est la célébration de Dieu. La vie spirituelle des enfants d'Israël, la vie de culte, par la suite va tourner autour des fêtes en l'honneur de l'Éternel. D'ailleurs, c'est ce que c'est dit. Nous sortons de l'Égypte pour faire une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est intéressant que Dieu appelle le système de culte, des cérémonies, des fêtes. Et la plupart de ces fêtes, dans le cadre du culte juif, étaient des fêtes joyeuses, des fêtes sympathiques, des fêtes de reconnaissance, des fêtes en famille. Il y avait des moments, bien sûr, de repentance, des moments solennels, mais une grande partie des fêtes étaient des moments réjouissants, où la famille pouvait être ensemble, célébrer ensemble des chants. Le livre des psaumes est rempli de chants qui accompagnaient ces fêtes. Bien sûr, il y aura ce cadre de loi, des commandements, des choses à faire, à ne pas faire. Mais tout ça, c'est pour les aider à encadrer un culte où l'on célèbre qui est Dieu. Si vous concevez la vie chrétienne principalement comme des interdictions, des privations, des punitions, vous n'imitez pas Dieu. C'est sûr, il y aura certaines fêtes du monde, certaines soirées où il va falloir interdire les enfants ou limiter. Mais en tant que chrétiens, nous remplaçons par mieux. Nous avons nos fêtes avec musique, avec reconnaissance, avec joie. Et ce que nous essayons de vivre en Église, avec tout le peuple de Dieu. Mais la vie chrétienne est principalement une vie joyeuse. Et ça, c'est cette attitude-là qu'on veut mettre dans nos foyers, dans nos familles. Bien sûr, des interdictions et des limitations font partie de l'autorité parentale, mais ne faites pas que interdire, proposer, jouer avec eux. On va peut-être limiter des réseaux sociaux, mais à côté, proposer un jeu de société qui est très social en famille. Et on veut essayer d'être créatif en tant que parent et pour aussi montrer que la vie avec Dieu est une vie de bénédiction, est une vie de joie et pas que triste. Donc ça, c'est cinq, il nous reste deux conseils. Sixième conseil, ne pensez pas que tout dépend de vous. Ce genre de message peut facilement culpabiliser les parents. C'est pas mon but. C'est sûr qu'il y a des charges solennelles dans la Bible adressées aux parents de transmettre la foi aux générations, à la génération suivante. Mais aussi, comme disait Vincent, beaucoup de grâce qui nous accompagne. Et puis c'est Dieu qui fait l'œuvre. Notre mission, c'est de raconter. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Je fais tout ça, je vous sors de l'Égypte pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire. On peut raconter, on peut montrer la voie, mais c'est Dieu qui agit dans les cœurs. Il faut que Dieu, d'ailleurs, c'est Dieu qui peut agir dans les cœurs, les endurcir, les adoucir. Ça, nous, les hommes, on ne peut pas faire. Alors, je vais vous donner un petit triste détail dans cette histoire, mais je trouve que aussi ça nous aide d'une manière peut-être encourageante à voir que tout ne dépend pas de nous. Le verset 2 disait, il parle à Moïse, tu racontes à ton fils et au fils de ton fils tout ce que j'ai fait en Égypte. Eh bien, nous avons un petit détail en Juges chapitre 18, verset 30, que le petit-fils de Moïse, il s'appelle Jonathan. Et ce Jonathan, en Juges 18, 30, on apprend qu'il a choisi d'être un prêtre païen pour un idole dans le nord du pays. Et on dit, mais que fait ce Jonathan, ce petit-fils de Moïse? Pourquoi il devient un prêtre païen qui rejette Dieu pour accompagner une idole dans le nord du pays qui a été une mauvaise influence pour Israël par la suite? Ce Jonathan, il connaissait l'histoire de l'Exode. Ce Jonathan, son grand-père était Moïse. Entre les copains, c'est quand même fort. Hein? Oui, mon grand-père, c'est Moïse. Et j'imagine que Moïse avait pu l'avoir sur ses genoux pour raconter tout ça. Mais il a choisi de suivre sa propre voie. Donc à la fois c'est triste, à la fois ça montre qu'on peut faire partie même des grands héros de la Bible et ne pas forcément voir tous nos enfants, tous nos petits-enfants faire le choix qu'on aimerait qu'ils fassent. Puisque c'est pas nous qui garantissons le salut, nous ne pouvons que faire raconter, nous ne pouvons que montrer la voie, et tout ne dépend pas de nous. Et enfin, dernier conseil, faites le voyage avec d'autres. Nous irons, dans le nous, il y a tout le monde, il y a tout le peuple. Nous irons ensemble, nous irons enfants, vieillards, fils et filles, nous irons. C'est pour ça que je dis aussi, c'est un projet d'église, c'est un projet pour tout le peuple. Dans ceux qui sont sortis de l'Égypte, il y avait des jeunes, et il y avait des vieillards, il y avait des couples, il y avait des célibataires, il y avait des couples avec enfants, il y avait des couples sans enfants, il y avait des veufs et des veuves, il y avait des orphelins, il y avait des histoires, il y avait des grands-parents, il y avait des histoires peut-être compliquées. Je pense à Moïse même. Peu après l'Exode, il va se remarier avec une Éthiopienne. Et là, on dit, mais il se remarie. Sa première femme, est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce que c'est deux femmes ensemble? L'histoire nous échappe, on ne sait pas les détails, mais il y a une complication là. Donc, il y a tous les cas de figure dans le peuple de Dieu, et ensemble, nous avons besoin les uns des autres pour se mettre en route. Dans notre église, il y a, voilà, vous avez vu sur l'estrade, il y avait toutes sortes de cas, toutes sortes de parcours. Nous avons besoin des uns des autres. Mes enfants peuvent être encouragés par le témoignage de ces personnes qui sortent de du trafic humain, de la prostitution, pour se mettre en route aussi. Ils font partie. Nos enfants peuvent être touchés par le témoignage d'un réfugié, un Iranien, un Afghan, qui raconte son parcours. C'est sûr, là, la vie de famille est très compliquée. Peut-être ils ont quitté famille ou ils n'ont pas d'enfants. Eh bien, nos enfants peuvent être interpellés par leur foi. Vous voyez, c'est un travail collectif, c'est une mise en commun de toutes sortes de parcours pour que nous avancions ensemble. C'est un projet de toute l'Église de vivre cette sortie d'Égypte que Dieu nous appelle à vivre. Donc, je vous ai donné 3 raisons et je vous ai donné 7 conseils. J'espère que vous pouvez en retenir quelques-uns, que ça puisse vous encourager dans le travail de parents et puis dans le travail de toute l'Église à s'encourager dans cette mission. Maintenant, je pose la question, est-ce que ça valait la peine de prendre ses enfants avec eux? Est-ce que Moïse a bien fait d'insister sur ses enfants? Je pose la question, que sont devenus ces enfants? Qu'est devenue cette génération qu'on n'a pas laissée en arrière en Égypte? Eh bien, ces enfants, ils ont fait mieux que leurs parents, en fait. Leurs parents avaient quelques problèmes d'incrédulité dans le désert, tournés en rond, ils ne sont pas entrés dans le pays promis. Mais les enfants en bas âge, les jeunes, ils sont grandis, et 40 ans plus tard, c'était la génération Josué. Et qu'a fait cette génération? Eh bien, eux, ils ont conquis, ils sont entrés avec Josué dans le pays promis, ils ont remporté de nombreuses victoires, ils ont remporté des combats, ils se sont battus fidèlement à côté de Josué et pour remporter le pays promis et entrer pleinement et jouir de la bénédiction de Dieu. Cette génération était une des meilleures générations de tout l'Ancien Testament. Ils ont fidèlement suivi la loi de Dieu pendant toute leur vie. Ça s'est compliqué par la suite, on est d'accord. Mais cette génération, mieux encore que les parents, qui avaient des problèmes d'incrédulité dans le désert, et mieux encore que les générations qui ont suivi, les juges déjà, mais cette génération-là, parce que Moïse les a gardés, parce qu'ils ont vu et entendu raconter les œuvres de Dieu, ils ont été fidèles. Donc, notre rêve, notre désir, notre prière en tant que parents, c'est pas juste protéger nos enfants du monde. Notre rêve, c'est qu'eux, ils partent à l'offensive contre le royaume du mal, le royaume de Satan, et qu'ils remportent des grandes victoires, et que par la foi, comme dit Hébreux, ils mettent en route les armées ennemies, les armées étrangères, et ils puissent vaincre des royaumes, c'est ce qu'a fait la génération Josué. Donc, nous voulons croire ça, nous voulons voir une nouvelle génération qui est capable de partir à l'offensive, qui peut faire peur aux pharaons et aux satans, et aux géants, et un monde incrédule, un monde païen, vivre toute la bénédiction, toute la grâce de Dieu. Voilà nos prières, voilà ce que nous allons continuer à poursuivre en Église, en famille. Que vous soyez encouragés ce matin. Ceux qui sont dans le feu de l'action, dans la fatigue des enfants en bas âge, et qui sont les crises d'adolescence, la vie de parents ne finit jamais, il y a toujours des défis. Eh bien, que Dieu continue de vous fortifier et vous encourager. Votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour les enfants que tu nous confies, nous te remercions pour notre Église qui est familiale, qui voit toutes les générations et c'est une grâce de ta part et c'est une image de ce que tu veux faire. Tu veux atteindre toutes les générations, tu aimes les enfants, tu nous les confies pour les pointer vers toi et nous te prions de nous aider, nous nous sentons incapables des fois, insuffisants pour cette tâche, nous-mêmes, nous pouvons être incrédules, nous pouvons douter, nous pouvons avoir peur du pharaon, nous pouvons être égoïstes. Nos enfants peuvent le voir et le savent, mais nous te prions de nous aider à saisir encore ta grâce, le salut en Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que Jésus nous a devancé. Il est notre libérateur, mieux que Moïse. Il, par sa mort, par sa résurrection, il nous conduit dans la vie et nous voulons ensemble nous entraîner à marcher dans cette voie vers toi. Merci pour ce temps de culte que nous avons vécu ensemble. Que chacun reparte encouragé et fortifié au nom de Jésus-Christ.